buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous, c'est une maladie qui fait un retour inattendu en Europe, la rougeole. En France, la nouvelle ministre de la Santé dit réfléchir à rendre obligatoire pour une durée limitée 11 vaccins pour enfants au lieu de 3, dont celui de la rougeole. En Italie, le gouvernement vient de franchir le pas en adoptant le 19 mai un décret qui rend obligatoire 12 vaccins, dont celui de la rougeole. Vaccins qui seront obligatoires pour toute inscription à la crèche ou à la maternelle. Il faut dire que ces dernières années en Europe, un nombre croissant de parents refusent de faire vacciner leur enfant contre la maladie, mettant en avant les risques des injections. À Rome, ils se sont mobilisés contre ce qu'ils appellent un diktat gouvernemental. C'est un reportage de Frédéric Lebel.
Ce samedi-là, ils sont quelques centaines à être venus manifester Piazza del Popolo contre le nouveau décret gouvernemental. Des parents et beaucoup de jeunes enfants non vaccinés forcément. Luca Angeli est venu avec son fils de 4 ans, Flavio. Pour elle, même s'il n'a reçu aucune injection, il ne risque rien.
Notre corps est une machine parfaite. En ce moment, il n'y a aucune situation alarmante. Il faut arrêter de nous raconter des bêtises. On doit pouvoir avoir le libre choix. S'il y avait vraiment une situation d'urgence, on serait les premiers à vacciner nos enfants. On n'est pas des parents inconscients. On sait ce qu'on doit faire pour nos enfants.
Per i nostri figli e per la loro salute.
Les chiffres officiels sont pourtant formels. 2395 cas de rougeole ont déjà été enregistrés en Italie pour ce début 2017, 3 fois plus que pour toute l'année précédente et 10 fois plus que pour 2015. Le taux de vaccination est tombé sous la barre des 85%, alors que l'Organisation mondiale de la santé demande un taux de 95%. Simonetta anime une émission de radio appelée Contre-courant. Les témoignages qu'elle reçoit, nous dit-elle, indiquent clairement un lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme.
Nous recevons beaucoup de cas de mères qui racontent que leur enfant a été endommagé par les vaccins. Et les mères racontent j'ai porté mon fils chez moi après le vaccin et il ne voulait plus manger, il a eu la fièvre. De ce moment-là, il n'a plus parlé, il n'était plus comme avant. Oui, ça ne peut pas être des coïncidences, ce sont trop de coïncidences. Ce sont des milliers et milliers et milliers de coïncidences. Tous les résultats ont démontré que les enfants sont devenus autistes après le vaccin.
Des accusations non étayées scientifiquement, mais qui ont reçu un large soutien sur les réseaux sociaux du mouvement populiste 5 étoiles. Ses représentants et Simonetta dénoncent les manœuvres de l'industrie pharmaceutique qui veut écouler ses produits.
Vous savez qu'en Italie, il y a beaucoup de corruption. Le vaccin de l'hépatite B est devenu obligatoire à cause d'une... comment se dit la mazzetta, nous l'appelons en Italie, un bakshish, 600 millions de lire. Hein? C'est seulement un business sur la peau des enfants.
Selon l'OMS, l'Italie est avec la Roumanie le pays d'Europe où l'on enregistre désormais le plus de cas de rougeole. Une maladie dont il ne faut pas avoir peur pour cette jeune grand-mère qui a décidé de convaincre son fils de ne pas vacciner ses propres enfants. Nous n'avons pas peur, senza paura, crient les manifestants. Mais à quelques kilomètres de là, dans la banlieue de Rome, le docteur Catherine Stenier, pédiatre, s'inquiète. Parmi ses patients, il y a peu de parents qui refusent le vaccin. Mais la campagne orchestrée par les opposants au vaccin ne doit pas être prise à la légère. La rougeole n'est pas une maladie bénigne.
Dans ma carrière professionnelle, je n'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de cas de rougeole. Mais les quelques cas de rougeole que j'ai vus donc chez des enfants, mais ces enfants ont bien souvent eu des complications pas très grave, donc des otites, des pneumonies, mais ça vraiment très fréquemment. Par contre, si une personne qui est immunodéprivée ou un nouveau-né contracte la rougeole, alors ça peut là être vraiment mortel.
En refusant de vacciner leurs enfants, les parents mettent aussi la vie des plus faibles en danger, explique-t-elle. La pédiatre, qui est aussi homéopathe, défend la découverte majeure qu'a faite Louis Pasteur au 19e siècle. Non, les vaccins et les cocktails de vaccins ne sont pas dangereux pour les nourrissons.
Le fait de combiner les vaccins en cocktail ne change rien par rapport au risque que l'enfant court. Ce n'est pas le nombre d'antigènes présents dans un vaccin, qu'il soit simple ou combiné à 3 ou combiné à 6, qui détermine un risque augmenté. Il suffit de penser que les vaccins non vivants qui sont administrés en bas âge comptent environ 170 antigènes et qu'un nouveau-né, quand il fait face au monde, quand il approche le monde, eh bien, il est exposé à environ 30 000 milliards d'antigènes de par tous les microbes qui colonisent son arbre respiratoire, sa peau et son appareil digestif. Donc, toute proportion faite, c'est vraiment très peu d'antigènes qui sont ainsi inoculés avec les vaccinations chez l'enfant.
Un décret pour rendre obligatoire les vaccins, c'était donc nécessaire, estime-t-elle. Retour sur la Piazza del Popolo, sous le soleil écrasant de ce début d'après-midi. Massimo est venu avec ses 3 enfants, jamais vaccinés contre la rougeole, la polio ou le tétanos. Le décret va avoir des conséquences lourdes sur sa petite famille. Sa fille de 7 ans et ses 2 jumelles de 2 ans et demi n'auront plus accès à l'école élémentaire ou à la maternelle.
Lorsque ce décret va passer, mes 2 filles jumelles ne pourront pas s'inscrire à l'école parce que les vaccins sont obligatoires. Le problème, c'est que ma femme et moi, on travaille et il va falloir payer quelqu'un pour les garder à la maison. Pour ma fille aînée à l'école élémentaire, ils vont demander que je régularise la situation. Du coup, je vais être obligé de me retourner vers l'agence médicale et entamer une procédure judiciaire auprès du tribunal pour enfants.
Des militants qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour défendre ce qu'ils appellent leur liberté.
En Croatie, eux aussi défendent leur liberté, celle de s'exprimer librement au grand jour. Le collectif House of Flamingos a fait sortir les drag queens de la clandestinité. Un groupe survolté qui se bat pour une meilleure reconnaissance des LGBT dans un pays plutôt conservateur et où l'hétérosexualité reste la norme. C'est un reportage de Philippe Bertinchamp.
À Zagreb, la petite troupe extravertie et flamboyante ne passe pas inaperçue. Sur scène, ils sont 4, âgés de 18 à 24 ans. Il y a là Antiti, Colinda Evangelista, Roxane et Spazam Orgazam. En coulisses, il y a aussi Marino et Ivan. Entre eux, ils se disent elles, tous les 6 forment le collectif de drag queens House of Flamingos. Perruque fluo, maquillage exubérant, guépière et talons aiguilles, Spazam Orgazam joue la vedette hollywoodienne.
Je suis né diva, c'est comme ça. Quand je suis sorti du vagin, j'étais comme... C'était la fête dès le départ.
Si elle reconnaît à demi-mot avoir été confrontée à l'hostilité de ses parents, elle qui a grandi dans une Croatie ancrée très à droite, c'est avec fierté qu'elle raconte que sa grand-mère compte parmi ses fans de la première heure.
En tant que drague, ma grand-mère a été ma principale source d'inspiration. C'était une diva des années 80 qui travaillait dans l'île de Brioni. Elle a été la coiffeuse de Tito, d'Elizabeth Taylor, de Jovanka Brostito, de Sophia Loren et de toutes les grandes stars qui venaient à Brioni. Cette part de mon caractère, je la lui dois car tout ce qu'elle portait, elle me le faisait porter. Ses fourrures, je les mettais à la maison. Elle m'habillait en drague et moi, je me comportais déjà en drague, sans même savoir ce que ça signifiait.
« Le collectif a officiellement vu le jour en 2014 en tant qu'association visant à promouvoir la culture et l'héritage queer qui milite pour l'abolition des frontières de genre et des normes sexuelles. Marino Sorel travaille pour la plateforme culturelle et médiatique Vox Femina à Zagreb. C'est aussi le manager et producteur des House of Flamingos.
Il y avait déjà des drags dans les nightclubs gays en Croatie avant même que l'on ne commence à faire ce que l'on fait. Mais notre idée était de sortir cette culture de la clandestinité des clubs où elle était confinée et de l'offrir à un public plus large qui pourrait être intéressé sans être forcément gay, lesbien ou trans. Et cela s'est révélé payant. Sur nos médias sociaux ou lors d'événements, une moitié des gens est queer, l'autre hétéro.
Maquillage, confection de robes, les House of Flamingos ont appris le métier sur le tas. Quant à l'argent gagné, il est aussitôt réinvesti pour le prochain spectacle. Antiti, plutôt timide et réservée dans le civil, incarne celle qui pourrait être l'enfant de Madonna et Bette Davis.
Être drag, c'est une forme d'activisme en soi, par nature. Chaque fois qu'on monte sur scène comme drag, c'est un acte politique. Je crois que c'est notre obligation de le faire, car nous avons cette plateforme d'où l'on peut parler, et je crois qu'il faut le faire.
Inès Kotarac est photographe. Elle a connu le groupe à ses débuts. Elle-même a quitté un temps la Croatie. C'était en 2013, à l'époque du référendum sur le mariage homosexuel, auquel les Croates ont massivement voté non.
Beaucoup de gens ont quitté la Croatie, beaucoup de jeunes, en particulier LGBT. Ils vivent à Berlin, librement, parce que là, c'est facile. Ils gagnent de l'argent, ils ont leur vie. Quand moi-même, je suis partie, j'ai pensé à ceux qui restaient. Ce sont eux, les vrais héros. Ceux qui restent et qui se battent dans une Croatie catholique et conservatrice.
Ces derniers temps, la situation s'est améliorée, reconnaît-elle, même si la société croate demeure toujours très patriarcale. Samedi 10 juin, la 16e édition de la Gay Pride a réuni 10 000 personnes dans les rues de Zagreb. Un défilé inimaginable il y a une dizaine d'années.
Au début, il y avait beaucoup de détracteurs. Des masses de gens hurlaient leur haine, nous insultaient et la police ne réagissait pas. Les LGBT et leurs sympathisants étaient en minorité. Mais aujourd'hui, on voit plusieurs milliers de gens marcher ensemble. D'autres nous saluent depuis leurs fenêtres. Le climat dans son ensemble a changé. Mais il a changé grâce au travail des gens, parce que beaucoup de gens ont fait ce qu'ils ont fait.
Mais il y a encore beaucoup de travail pour faire évoluer les mentalités, alors même que l'extrême droite religieuse occupe aussi le devant de la scène avec des idées réactionnaires et homophobes, comme le rappelle Marino.
Grâce à notre travail, nos performances ou des événements dans des nightclubs, on fait parfois référence à des problèmes qui pèsent sur la société croate. En ce moment, il y a une énorme campagne anti-avortement. On l'a évoqué dans notre vidéo de Noël, mais aussi dans nos performances l'année dernière, en marge de la Zagreb Pride. La réponse du public a été positive et je crois que cela nous situe comme un collectif qui ne fait pas cela que pour le fun, mais qui a aussi un message sérieux qu'il transmet grâce à son travail.
Touche à tout et brouilleur d'étiquettes, les House of Flamingos se produisent dans tous les bons cabarets de nuit et centres multiculturels de Zagreb, Belgrade et Sarajevo et commencent peu à peu à faire parler d'eux au-delà des frontières des Balkans.
Le reportage à Zagreb de Philippe Bertinchamp.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
À plus d'un titre, les réseaux sociaux ont révolutionné notre façon de communiquer les uns avec les autres, de nous informer, de jouer, de travailler ou même de se rencontrer. Mais ont-ils aussi modifié notre manière de postuler à un stage, à un emploi, en un mot, sont-ils aussi efficaces pour les recrutements que pour les divertissements? C'est ce qu'on voit avec vous.
Et oui, souvenez-vous, Laurent, des mises en garde de ces dernières années. Il fallait faire bien attention à ce que l'on postait sur les réseaux, ce que l'on disait, les photos que l'on partageait, car on découvrait que les RH, les responsables des ressources humaines dans les entreprises, étaient accros aux réseaux pour cerner la personnalité du candidat. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes eux-mêmes, les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi, qui se mettent en scène et utilisent ces outils de communication directe pour se faire remarquer.
Donc, est-ce qu'on peut trouver un boulot grâce à Facebook, par exemple?
Eh bien, pourquoi pas. En tout cas, près de 35 81% des 1300 jeunes diplômés interrogés par le biais d'une étude européenne menée conjointement par une grande école de commerce, l'EDEC, et le site Job Teaser déclarent avoir déjà cliqué sur une offre d'emploi postée sur le site, un tiers de plus qu'il y a seulement 3 ans. Alors d'ici là, à penser que le géant californien se transforme en Pôle emploi, on n'est quand même pas là. Seuls 11% des jeunes diplômés ont répondu et donc postulé à une offre d'emploi sur Facebook, 1 sur 10, donc c'est encore peu.
Bon alors Eve, du coup, quels sont les réseaux préférés par les jeunes européens pour trouver, ou du moins essayer de trouver
chercher
du travail?
Sans hésiter, c'est le géant LinkedIn qui s'est fait une place de choix. Près de 90% des sondés y ont créé un compte dès le début de leurs études, qu'ils mettent à jour après chaque diplôme, chaque stage, formation ou emploi de courte durée. Selon l'étude, les 3/4 y viennent régulièrement pour consulter leur fil d'actualité, comme on dit, agrandir leur réseau ou candidater en ligne pour 47% d'entre eux. Mieux, on se fait même chasser sur ces sites de rencontres. Pour CV, 52% des jeunes diplômés ont été approchés par un recruteur via un réseau social de ce type, soit 7% de plus que lors de la dernière enquête il y a 3 ans.
Avec quel succès? Est-ce que ça marche vraiment?
Alors bon, en réalité, ça génère plus de clics que de contrats de travail, car toujours via ce genre de réseau professionnel, ils sont que 14% à avoir vraiment trouvé un emploi concret. Ce genre de site finalement est très personnalisé, mais aussi très chronophage. C'est pour cela que les job boards ont de plus en plus de succès. Ce sont pas des réseaux cette fois-ci, mais des sites d'emploi, littéralement des panneaux d'emploi qui listent en fait les jobs à pourvoir en précisant bien qui contacter et comment. C'est-à-dire que le recrutement se fait un peu à l'ancienne, en fonction d'un poste vacant, mais que les sites recense des milliers d'emplois par secteur d'activité, de lieu de travail, de type de poste. Bref, si vous rêvez de travailler par exemple dans une start-up berlinoise, il vous suffira de taper dans votre moteur de recherche Job Board Start-up Berlin et une dizaine de sites apparaîtront qui recensent tous les postes disponibles dans le domaine. Alors tous sont plus ou moins fiable, régulièrement mise à jour. Cela vaut donc quand même la peine de prendre le temps de vérifier. En tout cas, cette méthode de recherche est valorisée cette fois-ci par un jeune diplômé sur deux.
Et puis si on reste hors réseau, ben, il y a la bonne vieille méthode, le réseau, mais déconnecté.
Déconnecté, oui, pas besoin pour cela d'être inscrit sur 1000 réseaux. Il suffit de cultiver le sien IRL, in real life, dans la vraie vie, de faire le tour de son entourage, on ne le répétera jamais assez, pour voir qui pourrait éventuellement nous aider à entrer en contact avec un recruteur pendant ses études, à l'école, dans sa famille, auprès de ses amis. C'est encore la meilleure manière d'obtenir un stage, sachant que celui-ci reste généralement encore le meilleur allié du jeune diplômé. 30% environ de stages se transforment en emploi.
Merci Eve Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
En passant par Madrid, difficile de ne pas voir cet immense édifice qui domine la place d'Espagne de toute sa hauteur. Ce symbole du franquisme vient finalement d'être vendu à un magnat espagnol de Murcie qui lui-même a racheté l'affaire à des millionnaires chinois. Mais cet édifice devrait conserver son apparence actuelle, François Musso.
En langue arabe, baraka veut dire littéralement « abondance d'Allah ». Dans le langage courant, cela signifie abondance dans l'argent, les biens, la famille. Et en français, ce serait une qualité que l'on attribue à une personne en particulier, une personne qui aurait une chance invraisemblable. Baraka, c'est aussi le nom de la société espagnole qui vient de racheter l'édifice Espagne, un mastodonte de 117 mètres de hauteur, de 28 étages, qui a un peu la forme de l'Empire State Building à New York. Un bâtiment construit en 1957, lorsque le dictateur Franco était au pouvoir, et qui est resté comme un symbole de la longue dictature. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il apparaît comme un édifice historique singulier. Et le groupe Baraka l'a compris. Son président est un homme d'affaires malin qui a l'habitude d'acheter à bas prix pour revendre ensuite bien plus cher. Cela faisait des années qu'il lorgnait sur ce gratte-ciel. Il a attendu que les Chinois du groupe Vanda l'achètent à une banque et c'est à eux qu'il vient de le racheter pour la bagatelle de 265 millions d'euros. Le président de Baraka s'appelle Casanova, un nom de séducteur qui a réussi son opération de séduction. Car en sous-main, à peine le rachat fait, il vient de revendre l'affaire à une chaîne hôtelière des Baléares, pour bien plus cher bien sûr, qui va transformer le lieu en un hôtel 4 étoiles de 650 chambres. Cette histoire n'est pas seulement une histoire de plus sur la spéculation, elle traduit aussi le fait que le marché immobilier, qui s'était écroulé en 2008 avec la crise, est reparti en Espagne. Madrid notamment redevient un lieu d'investissement juteux, l'argent coule de nouveau à flot et déjà, certains commentateurs parlent du risque d'une nouvelle bulle spéculative.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. On se retrouve demain dès 17h40, temps universel.